Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, compte histoire, légende. Oui, c'est une émission où on raconte n'importe quoi. Mais enfin, pas tout à fait. Hein. Les histoires nous viennent de loin. Souvent, elles se transforment, elles évoluent. Mais toutes pointent vers quelque chose. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas d'accord sur ce qui est montré, comme toujours. En tout cas, dans la tradition moyenne-orientale, existent des histoires avec des multiples niveaux d'interprétation et qui font partie de ce qu'on appelle les histoires soufis. Là, c'est à nouveau le livre « Chercheur de vérité » d'Idriss Shah que j'ai exploré pour en trouver des histoires. Chercher la vérité, c'est toujours paradoxal, parce que plus on la cherche, moins on la trouve, et dit-on, on ne la trouve que lorsqu'on arrête de la chercher. Donc on a déjà quelque chose qui doit être dénoué, et là, ces histoires vont au cœur justement des interrogations, de la vie, des questions des maîtres et des disciples soufis, et bien sûr, elles sont divertissantes, mais elles sont aussi des outils pour nous faire comprendre des choses. Mais n'allez pas trop vous creuser la tête. En général, le chemin des histoires à l'intérieur de nous se fait tout seul. C'est plus une digestion qu'une compréhension intellectuelle. Et donc, on part à nouveau avec quelques, je dis, 6 ou 7 histoires soufis recueillies par Idriss Shah dans son livre « Chercheur de vérité » aux éditions Albin Michel. Et on commence tout de suite, tiens, ça va nous rassasier, par le pain. Lorsqu'on demanda à un soufi de grande sagesse une parabole qui éclaire le travail des maîtres et la nature des disciples, il répondit immédiatement. Autrefois, vivait un homme qui voulait soustraire un trésor à la convoitise d'un voleur de façon à pouvoir le partager avec les méritants de ce monde. Le voleur était robuste et violent. Et le seul secours de l'homme généreux était un pain doué de parole. Le voleur arriva à la porte de la maison. Il l'ouvrit toute grande. De l'autre côté de la porte, sur une petite table, se trouvait le pain doué de parole. Le pain lui dit « Honorable ami, quelle est ta mission? Quelles sont tes intentions? Quel est ton but ?» Or, ce voleur était non seulement frustre et avide, mais de surcroît, comme la plupart d'entre nous, il était extrêmement curieux de nature. La vue de ce pain qui savait parler l'avait quelque peu décontenancé. « Comment as-tu appris à parler ? Et que peux-tu me dire ? » demanda-t-il au pain. « Je peux parler parce que je suis dans cette maison, c'est une maison magique. Si tu entres toi aussi, tu développeras des pouvoirs magiques. » « C'est exactement ce que je cherche, » fit le voleur. « Avant d'entrer, » reprit le pain, « il faut bien te mettre dans la tête que tu devras passer par là où je suis passé. Crois-moi, ce n'est pas rien. »« Et par où es-tu donc passé, toi, simple pain, que je ne puisse pas moi ?» Voleur expérimenté y passait également. « Je ne dis pas que tu ne peux pas, » répondit le pain. « Je veux seulement te dire 2 mots des épreuves que j'ai endurées afin que tu aies le choix. »« Eh bien, raconte, » fit le voleur. « Tout d'abord, » commença le pain, « j'étais une plante et je poussais dans un champ. Puis, une part de moi-même devint sèche, comme la mort, et tomba. Elle demeura enfouie dans la terre glacée jusqu'à ce qu'elle se fendît. » Trempa dans l'eau pour s'en imprégner, grandit et finalement donna naissance à des pousses qui sortirent de terre. Elle devint une autre plante et se retrouva empoignée et battu jusqu'à ce que l'enveloppe fût séparée de sa part intérieure. Le grain intérieur fut écrasé, moulu, la poudre mélangée à une autre poudre et gardée en réserve. Puis elle fut retirée du lieu où elle avait été entreposée, brassée avec de l'eau et d'autres ingrédients. Et cette pâte fut battue et placée en un lieu où la chaleur était atroce jusqu'à ce qu'elle prît une teinte dorée. Et voilà, c'est moi. Quand le pain eut terminé son récit, il vit que le voleur s'était enfui. On pouvait l'entendre au loin sangloter de frayeur. Le soufi poursuivit, l'avidité de s'emparer du trésor chez le voleur est analogue au désir du disciple avant qu'il ne sache que le trésor et là, non pour être volé, mais pour être servi. Le processus qui conduit à cette découverte est analogue aux opérations qui aboutissent au pain. Mais la plupart des disciples ne sont pas de vrais chercheurs. Ils fuient la vérité en imaginant toutes sortes d'autres choses au sujet de l'enseignement. Un jour, un maître soufi vit s'avancer vers lui l'un de ses disciples. « Maître, dit celui-ci, je suis en butte aux persécutions continuelles des autres membres de la communauté qui me font la vie dure. À moins que ce ne soit ton désir que je subisse leur brimade, je voudrais bien que cela cesse. » « Rien de plus facile, dit le soufi. Tout ce que tu auras à faire, c'est de m'aborder quand nous serons en contemplation et de me chuchoter quelques mots à l'oreille. Et moi, je ferai de même. » Du jour où les membres de la communauté furent témoins de la scène, le disciple opprimé eut droit à tous les égards. N'avait-il pas le droit, lui, de parler au maître à voix basse? Un jour, cependant, un disciple parmi les plus hardis interrogea le maître. « Maître, ne nous est-il donc pas permis d'entendre ce que tu dis à notre condisciple? Après tout, nous sommes aussi dociles et attentifs que lui. » Le maître en convint, et à l'assemblée suivante, il appela l'élève qui avait été persécuté et lui dit à voix haute « Peux-tu mettre sous le joug les yeux exorbités ?»« Oui, dit le jeune homme. « Bien, que gagnes-tu ? 10. Et que perds-tu ? 5. Qu'est-il arrivé aux 32 ? 29 sont à la maison. » Les autres les regardaient en roulant de gros yeux ronds et quand ils furent entre eux, ils discutèrent à perte de vue le sens caché de cette mystérieuse conversation. Mais ils soutenaient des opinions si différentes qu'ils se décidèrent finalement à demander aux disciples favori maintenant, en tout cas pour à leurs yeux, de leur dévoiler la signification de cet échange. Celui-ci leur dit, c'est très simple. Le maître voulait vous montrer que vous pouvez vous laisser facilement impressionner par des riens. C'est pourquoi il m'a parlé à voix basse. Vous en avez conclu que c'était là une marque de faveur et vous êtes senti obligé de bien vous conduire envers moi. Mais, et cette conversation énigmatique que tu as eue avec lui ? Elle n'avait rien à voir avec vous. Je gagne 10 pièces d'argent. J'en perds 5 à payer les études de mon fils. Mais les 32, ce doit être des personnages importants ou des hommes de valeur dans le royaume spirituel. Les 32 sont mes dents. Il m'en reste 29. Je peux donc dire qu'elles sont toujours à la maison dans ma bouche. Se dirent les disciples. Il essaye de nous dérouter. La clé se trouve sans doute dans la première question que le maître lui a posée et qui doit recéler la vraie signification intérieure. Ils demandèrent alors à l'élève, « Que voulait dire le maître lorsqu'il t'a demandé si tu pouvais mettre sous le joug les yeux exorbités ?»« Donnez-moi une pièce d'or et je vous le dirai, promit-il. » Tous les autres se dépêchèrent d'aller chercher l'argent et dès qu'il eut l'argent, il répondit « Et voilà, c'était la démonstration que l'on peut mettre sous le joug les yeux exorbités. Ces yeux, ce sont les vôtres, tous grands, ouverts de désirs avides. Pour les mettre sous le joug, il suffit de stimuler la curiosité. Tous les esprits futiles révèlent leur futilité par la curiosité indiscrète. » Alors, qu'avons-nous à apprendre ? S'écrièrent-ils dans l'angoisse. Que la convoitise, qu'elle se manifeste dans le domaine matériel ou dans le domaine spirituel, amène à se complaire dans les futilités. Elle vous interdit l'accès à la compréhension supérieure et entrave tout progrès. Elle ne peut se dissoudre que si la démonstration est faite de la futilité de vos pensées. Un homme alla trouver un soufi et lui dit « Je voudrais devenir ton disciple ». Le soufi lui demanda « Voudrais-tu devenir le disciple d'un chien ?»« Non, fit l'homme. » « Alors tu ne peux pas suivre notre chemin, car je suis moi-même le disciple d'un chien, » répondit le soufi. « Et il te faudrait donc considérer mon maître comme supérieur à moi. »« Comment ? » fit le postulant, « peux-tu être le disciple d'un chien ?»« Parce qu'un jour, j'ai vu un chien traiter avec bonté un autre chien qui lui avait fait sa soumission. » Le visiteur protesta. « Mais... » Tu as ton école, ton centre d'études, que fréquentent des élèves qui te traitent avec le plus grand respect. Tu as atteint un stade où l'on ne s'occupe plus de la façon dont les chiens se conduisent. Tu décris là ce que tu désires, dit le maître. Tu désires un enseignement avec des rituels réguliers, des marques extérieures de respect, un centre d'études visible. Tu ne cherches pas à être un soufi. Tu cherches à faire partie d'une communauté de ce genre. Ce n'est pas la même chose. Mais si j'ai été attiré par ta forme extérieure, c'est de ta faute, assurément, puisque c'est sous cette forme que tu te présentes au monde. Ce que le monde en pense est une chose, ce que le disciple en comprend en est une autre, dit le soufi. Ce qui t'intéresse, c'est le rituel, la communauté, la musique, le travail, le service, ou plutôt ce que tu entends par là. Alors tu as le plus grand besoin de ceux qui pourront t'instruire avec d'autres méthodes. Se prêter à tes exigences superficielles, cela n'est pas le soufisme, même si tout le monde pense le contraire. Un postulant demanda à voir un maître soufi. Il te faut d'abord trouver la réponse à une question, lui dit l'un des disciples. Si tu y parviens, le maître t'acceptera comme élève dans 3 ans. La question fut posée et le chercheur s'acharna jusqu'à ce qu'il eût trouvé la réponse. Le représentant du maître porta la réponse au soufi et revint avec ce message. Ta réponse est correcte. Tu peux t'en aller maintenant et attendre que les 1001 jours soient écoulés, après quoi tu pourras revenir ici pour recevoir l'enseignement. Le postulant était ravi. Quand il eut remercié le messager, il lui demanda simplement « Et que serait-il arrivé si je n'avais pas su fournir la bonne réponse ?»« Oh, dans ce cas, tu aurais été admis immédiatement. » Rencontre. Les familiers des œuvres soufies classiques connaissent bien ces récits qui dépeignent un certain type de rencontre. Aujourd'hui, comme hier, dans le monde entier, de telles rencontres ont toujours lieu. Leur valeur, tant pour les participants que pour les observateurs et ceux qui en lisent le récit ou en entendent parler, est toujours la même. Je parlais un jour, avec un éminent théologien de Bagdad, et dans le cours de la conversation, je mentionnais les derviches et leurs coutumes. Sans se préoccuper de savoir si j'avais envie ou non d'entendre un sermon, il se lança dans une violente diatribe contre les derviches, ces imposteurs, ces charlatans, victimes de leurs pernicieuses illusions. Selon lui, il cherchait à attirer les gens pour s'engraisser à leurs dépens. Il se donnait des airs et c'est tout. Leur mystère, leur méthode psychologique, tout cela n'était qu'un tissu d'absurdité qui plus est contraire à l'islam. Le seul bon travail errant rapport à ce culte repoussant était le fait de ces rares musulmans intelligents et pleins d'abnégation qui feignaient d'être des soufis pour aiguiller sur la voie du salut et ramener dans le giron de l'islam ceux qu'ils attiraient à eux. Ces soufis étaient des monstres et il allait, séance tenante, me démontrer leur nocivité pour l'amour de la vérité et sans crainte d'être démenti. Si je voulais bien toutefois l'accompagner en un lieu où ces païens infâmes tenaient ce jour même réunion. Ma foi, je le suivis donc de rue en rue. Et il s'arrêta devant une porte, frappa. Un jeune homme nous ouvrit et nous conduisit dans la cour intérieure où nous nous trouvâmes en présence d'un groupe d'hommes dont l'aspect n'avait rien d'horrifiant et qui étaient assis dans la fraîcheur du soir autour d'un bassin aux eaux dormantes. Ils se levèrent poliment lorsque le théologien s'approcha à l'air furieux et l'invitèrent d'un geste à se reposer avec eux, murmurant des paroles de bienvenue. Mon compagnon resta de marbre. Soudain, il se mit à crier à tue-tête. « Loin de moi, hypocrisie, vanité, convoitise !» Ces cris effarouchèrent un groupe de pigeons blancs qui s'envolèrent et se mirent à tournoyer au-dessus de nos têtes. « Loin de moi, hypocrisie, vanité, convoitise !» Cela prenait maintenant l'allure d'une litanie tant il ressassait sa formule. Il faisait de grands bonds, jetait les mots au visage des derviches, pointait sur eux un index vengeur. D'abord, ils ne réagirent pas. Puis, je me rendis compte qu'eux aussi s'étaient mis à psalmodier. « Loin de moi, hypocrisie, vanité, convoitise !» Et bientôt, ils furent tous, comme l'homme, en train de crier, de psalmodier, d'affirmer « Loin de moi, hypocrisie, vanité, convoitise !» La tournure que prenaient les événements mit l'homme de Dieu, ou prétendu tel, dans une telle fureur qu'il poussa un cri farouche, se frappa le front du talon de la main et, me laissant là, se rua hors de la cour. De la rue qui longeait l'enceinte du jardin me parvenaient encore ces vociférations dont l'écho finit par s'évanouir dans le lointain. Les silhouettes assises continuèrent à répéter les paroles de leur censeur, plusieurs fois encore, de plus en plus bas, jusqu'à ce que leur murmure devienne imperceptible. Je demandai à leur chef, assis sur une peau de mouton au centre du groupe, pourquoi ils avaient repris à leur compte le slogan d'un détracteur. L'homme qui est venu, me dit-il, est un théologien et un docteur de la loi connu et respecté. Maintes de ses paroles, bien qu'elles ne soient que des citations et ne reflètent pas son propre état, constituent des admonitions valables et appropriées. Nous avons tous conscience qu'il est nécessaire de supprimer l'hypocrisie, la vanité et l'avidité. Et nous sommes naturellement reconnaissants à quiconque nous le rappelle de façon à ce que nous aussi nous puissions nous concentrer un moment sur cette nécessité. Aussi avons-nous adopté l'excellent conseil que nous a donné cet homme et arrêté notre pensée sur le thème qu'il nous proposait. Aucun doute que cela nous fera du bien. Mais, dis-je, puisqu'il pense que vous êtes les hypocrites et les mécréants qu'il faut combattre, puisqu'il n'irait jamais imaginer que vous avez adopté ces enseignements et qu'il a dû ne voir que sarcasme dans le fait que vous ayez répété ces paroles, quel bien tout cela lui a-t-il fait à lui ? L'un des soufis présents leva la tête. S'il cherchait à faire le bien, il n'aurait dû en attendre aucun avantage, celui qui fait réellement le bien et agit sans espoir de récompense. Et s'il néglige de faire le bien, il ne craint pas le châtiment. Mais si vous n'avez pas vu quel avantage en a tiré ce théologien, je vais vous le dire. Il a gagné la satisfaction de s'imaginer nous convaincre que nous étions malfaisants et fermés à la vérité. Celui-là lui a donné un moment l'impression qu'il était, d'une certaine façon, un homme de bien. Et comme d'ordinaire, il en doute fort lui-même, il lui faut chercher les preuves et donc provoquer des incidents qui viennent soutenir sa foi chancelante. La permission d'interpréter. Du fait de la nature spéciale des textes soufis, les maîtres de la voix ont souvent donné l'autorisation à ceux qui en étaient dignes d'interpréter et d'expliquer leurs livres. La règle n'a pas toujours été respectée et beaucoup ont fait ainsi carrière dans le soufisme en prétendant être capables d'enseigner en s'appuyant sur les livres des maîtres soufis. On rapporte qu'un derviche était en train de pérorer un jour sur l'une des œuvres du grand poète Chami, quand un nouveau venu entra discrètement dans la salle de conférence et se mit à faire nom de la tête de plus en plus fréquemment, tandis que l'érudit se répandait en commentaires et livrait ses interprétations de la pensée de Jami. Petit à petit, tous les regards se tournèrent vers l'étranger, et à la fin, le derviche, attachant sur lui un regard pénétrant, lui lança « Prétends-tu être en désaccord avec moi ?»« Oui, » fit l'intrus. « Mais, reprit le derviche, as-tu reçu du grand maître Jami l'autorisation d'interpréter ses œuvres ?»« Non. » »« Alors qui es-tu donc ? Comment peux-tu te conduire de façon aussi ridicule ? De quel droit oses-tu défier un homme de mon importance ?»« Je m'appelle Jami, » dit le visiteur, et il s'en alla. Un postulant vint trouver un soufi. Le soufi lui dit « Si je te dis, le fils de mon père n'est pas mon frère, de qui est-ce que je parle ?» Le candidat disciple fut incapable de trouver la réponse. « Mais c'était de moi, bien entendu, » dit le soufi. « Maintenant retourne dans ton village et chasse de ton esprit l'idée de te faire disciple. » L'homme revint donc chez lui et les villageois lui demandèrent ce qu'il avait appris. Il leur dit « Si je dis « Le fils de mon père n'est pas mon frère, de qui est-ce que je parle ?»« De toi, » firent en cœur les autres. « Vous vous trompez, » répliqua notre homme. « Le fils de mon père, c'est le soufi de la ville voisine, c'est lui qui me l'a dit. » Compte à rebours, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a cherché un peu la vérité. J'espère que vous finirez par la trouver. En tout cas, on s'amuse. Et il y avait des musiques aujourd'hui, c'était Hamza Eldin. Le livre, c'est un livre d'Idriss Shah qui est assez connu. Et puis voilà, c'était Marco, c'était Compte à rebours. Je vous dis bien à la semaine prochaine. Ciao.